soir, lutte contre le Covid-19, un couvre-feu est instauré en RDC par le président de la République depuis le vendredi 18 décembre dernier pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie qui frappe le pays. Le ministre de la Communication et Médias a annoncé cette mesure parmi tant d'autres, notamment la fermeture anticipée des écoles pour les vacances de Noël, l'interdiction des cérémonies avant les enterrements et l'interdiction des rassemblements publics de plus de 10 personnes. Cependant, les cultes sont autorisés dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Les débits des boissons et les commerces sont ouverts jusqu'avant l'heure du couvre-feu. Que pensez-vous de ces mesures? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 21 décembre 2020. Participe au débat Dr Nestor Mandiangou, ministre en charge de la santé du gouvernement provincial du Congo central. Monsieur le ministre provincial, bonsoir. Docteur Nestor Mandiangou, bonsoir. Apparemment, on a un petit souci avec la ligne de Docteur Nestor Mandiangou, mais aussi avec nous dans ce débat, Dany Singoma, directeur général du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire. Il est également coordonnateur de la dynamique citoyenne COVID-19, un réseau des organisations de la société civile sur le COVID-19. Dany Singoma, bonsoir.
Bonsoir.
Lui, il va nous rejoindre dans un tout petit moment, le professeur Jean-Marie Kayembe, pneumologue. Il est responsable de la prise en charge médicale des cas de COVID-19 en RDC. Vous, auditeurs de Radio Okapi, vous êtes aussi nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Alfred Kisokero. La RDC ne se résume pas à la seule ville de Kinshasa. Les autorités devraient adapter les mesures sanitaires à la réalité de chaque milieu. À Balo, Héritier et à Missi, à mon avis, les mesures prises par les présidents de la République sont salutaires, qui entrent dans ses devoirs de nous protéger et de nous sécuriser. La lutte contre la contamination rapide et massive du COVID-19 est une affaire de tous, car personne n'est à l'abri. Mais avant toute chose, chacun doit obligatoirement se protéger et se sécuriser en observant scrupuleusement les mesures barrières. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a décrété un couvre-feu sur l'ensemble du territoire congolais afin de lutter contre la deuxième vague du coronavirus. Cette mesure phare et d'autres ont été prises au cours d'une réunion du comité multisectoriel de lutte contre cette pandémie sous la direction du chef de l'État, tenue mardi 15 décembre dans la soirée au Palais de la Nation à Kinshasa. Les détails de ces mesures avec vous, Noémi Senga.
Le couvre-feu décidé par le chef de l'État et son instauration ira de 21h à 5h. Plusieurs autres mesures ont été prises, parmi lesquelles l'anticipation des vacances de Noël au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, l'interdiction des marches publiques, des productions artistiques et des kermesses, ainsi que des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes. La série de mesures continue avec le report à une date ultérieure des cours à l'enseignement supérieur et universitaire, la poursuite des compétitions sportives à huis clos et le fonctionnement des églises et des débits des boissons avant le couvre-feu dans le respect des gestes barrières. Pendant le couvre-feu, la circulation des personnes sera conditionnée par l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. Par ailleurs, le respect des mesures barrières dans tous les lieux publics et dans les transports sera de stricte observance.
Merci Honoré Missenga Kalala. Docteur Nestor Mandiangou, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis là. Je ne suis pas ma femme, je suis le ministre provincial de la Santé du Congo central. Je suis avec vous.
Merci, Monsieur le ministre. Alors, vous avez suivi les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le COVID, la deuxième vague du COVID-19 en RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles peuvent vraiment aider le pays à lutter efficacement contre cette deuxième vague?
Merci beaucoup pour la question, madame. De prime abord, je tiens à remercier son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, pour ses avances dans la prise de décision. Aussitôt après la nouvelle vague, et de grandes décisions, de grandes mesures sont tombées dans les pays pour que nous puissions riposter davantage. Ça mérite beaucoup d'éloges de la part du chef de l'État. Oui, les mesures, ce sont les mesures qui règlent les choses. L'État travaille sur base des mesures. Et je pense que ces mesures renouvelées parmi elles, parce qu'il y a des nouvelles comme des anciennes, ça mérite d'être prise pour pouvoir barricader la propagation de la pandémie COVID-19. Je pense que nous pouvons tous saluer ces mesures, parce que bien appliquées, je pense que nous allons mettre fin, sinon réduire les niveaux de contamination de nos populations par la pandémie.
Monsieur le ministre provincial, il y a Alfred Kisokiero qui estime que la RDC ne se résume pas à la seule ville de Kinshasa. Les autorités devraient adapter les mesures sanitaires à la réalité de chaque milieu.
Mais oui, mais c'est ça que nous faisons. On ne se réfère pas à Kinshasa, mais on se réfère aux mesures prises par le chef de l'État. Le couvre-feu, c'est dans toute la République démocratique du Congo. Les gestes barrières, ce n'est pas à Kinshasa qu'on doit les appliquer. C'est partout où les problèmes se posent. Et nous, dans le Congo central, nous sommes concernés parce que la maladie est là et nous devons suivre ces mesures pour les appliquer. Donc, les mesures ne sont pas pour la ville de Kinshasa, mais c'est pour toute la République démocratique du Congo.
Oui, pour toute la République démocratique du Congo, pourquoi instaurer un couvre-feu, par exemple, dans les provinces qui ne sont pas touchées par la pandémie?
Mais c'est vous qui le dites qu'aujourd'hui ces provinces ne sont pas touchées, mais pendant les parcours, elles peuvent l'être. C'est ça le problème. Quand la COVID intervient dans une province, elle n'avertit personne. Il y a des provinces aujourd'hui qui sont peut-être épargnées, mais on ne sait pas. Aujourd'hui, nous parlons avec vous, ça peut être le soir où un cas peut être relevé par ici, par là. Donc le danger est permanent pour toute la République démocratique du Congo. Donc, quand la mesure est prise, on ne peut pas dire dans telle province on laisse. Non, la mesure est prise de manière globale pour que nous puissions nous protéger.
Alors, au niveau du Bas-Congo, quelles sont les précautions prises pour faire appliquer toutes ces mesures sur terrain, monsieur le ministre provincial?
Oui, quelles sont les précautions? Mais c'est la mise en application, parce que les mesures sont là. Nous avons déjà tenu nos différentes réunions par rapport à cela et on a décidé à ce que ces mesures puissent être appliquées. Et l'état d'urgence, le couvre-feu, est d'application dans toute la province du Congo central, de fin de 21h jusqu'à 5h du matin. Donc il n'y a pas d'exception par rapport à cela. Et par rapport au strict geste barrière, l'application est là. Parce que, écoutez...
Mais ce n'est pas ce que nous apprenons, monsieur le ministre. On apprend qu'au Bas-Congo, la population ne respecte presque pas les gestes barrières. Les gens ne portent pas des masques. Il n'y a pas de distanciation sociale.
Non, qui vous dit cela? Qui vous dit ça? Il faut venir, vous êtes journaliste, il faut descendre dans la province du Congo central et pas en les lieux. Il faut parcourir la province pour voir. Je vous informe, madame, que quand il faut passer à un changement de comportement, je l'ai toujours signalé, ce n'est pas du tic au tac et ce n'est pas tout le monde qui obéit. Même à Kinshasa, on peut dire ce qu'on veut, il y aura toujours des gens qui vont minimiser la chose. Mais de manière globale, quand vous venez, vous allez voir les gens porter les masques. Donc dans le Congo central, les mesures s'appliquent, mais les récalcitrants ne manquent jamais. Vous ne pouvez jamais couvrir toute la province et voir tout le monde porter son masque du matin au soir. Non. Par ici, par là, il y a des gens qui nous échappent, mais au moins, on applique et ils sont interpellés. C'est ça la force. On a pris la décision d'être en contact avec tout le monde. Si jamais on trouve que vous ne respectez pas, on va vous demander de le porter. Ce n'est pas de manière forte comme ça qu'il faut brutaliser, non. C'est par des conseils pour que la mesure ou le comportement puisse réellement être adopté par la communauté. Donc, je pense que dans le Congo central, on est derrière le chef de l'État par rapport à cela et les mesures sont d'application. Là où il y a des gens qui nous échappent, nous sommes obligés de pousser la réflexion, d'être ensemble, essayer d'éduquer pour que les gens puissent comprendre ce qu'il faut faire.
Nestor Mandiangou, vous êtes ministre en charge de la santé du gouvernement provincial du Congo central. Plusieurs personnes se posent la question de savoir pourquoi fermer les écoles, mais on laisse fonctionner les bars et les églises.
La mesure vient d'en haut, c'est le chef de l'État qui a demandé. Si les gens se posent, ils doivent réfléchir. Ils savent bien que les enfants sont des cibles très sensibles. Ils se retrouvent facilement dans les écoles, ils jouent ensemble. Vous voyez autant de problèmes qui peuvent arriver dans ces milieux-là. Si on demande aux enfants de rester à la maison, c'est pour éviter à ce qu'il y ait cette grande contamination. Les églises, ce sont des adultes les plus souvent. Et on demande à ceux-là que quand vous êtes vous qui priez dans telle ou telle autre église, quand vous êtes là, respectez la distanciation physique et utilisez votre masque. Ce qu'un enfant ne peut pas facilement, quand ils doivent jouer au football, au basket, autres jeux de masse qu'on trouve dans les écoles, c'est risquant. Les enfants qui tombent ensemble, qui s'embrouillent ensemble, et vous voyez, vous-même, vous êtes peut-être père ou mère de famille, vous savez ce qui se passe dans ce domaine. C'est pour ces raisons qu'on demande cela. Même au niveau supérieur, c'est la même chose. Il y a moins de distance quand on est ensemble. Et ce sont surtout ces jeunes-là qui sont des saboteurs. C'est pour cela qu'on leur demande de rester pendant un temps chez eux jusqu'à ce que le chef de l'État va voir quand lever les mesures pour que la situation revienne à la normale. Donc, les bars, on vous dit les bars, non. On dit à partir de 21h, fini. Pas de bars, restez chez vous parce qu'on sait que quand les gens ont bu, et souvent on passe à autre chose qui ne sont pas permises. Voilà.
Monsieur le ministre provincial, une certaine opinion estime que l'on ne devrait pas instaurer un couvre-feu en RDC pour lutter contre cette pandémie, mais il fallait plutôt fermer les frontières car beaucoup de cas sont importés.
Mais oui, beaucoup de cas sont importés. On ne dit pas qu'au niveau des frontières, on a baissé les bras. Non. Nous, dans toutes nos frontières, il y a des services de programme d'hygiène aux frontières qui existent, qui continuent à checker. Donc, toute personne qui quitte un autre point, un autre pays comme l'Angola, et qui doit accéder à la République par Loufo, mais ils sont checkés. Il n'y a pas libre cours. Et surtout aussi que l'Angola continue à fermer les frontières. Donc, toutes les mesures, de manière globale, sont prises en compte. On n'a pas baissé les bras. S'il y a quelqu'un qui voudrait faire un mouvement vers l'extérieur, il doit être contrôlé. Et s'il y a quelqu'un qui quitte un autre pays pour entrer dans la province du Congo central, il doit aussi être checké. Donc, on n'a pas baissé les bras par rapport à cela, madame.
Dani Singoma, directeur général du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire. Vous êtes également coordonnateur de la dynamique citoyenne COVID-19 à réseau des organisations de la société civile sur le COVID-19. Dani Singoma, que pensez-vous de ces mesures?
Merci, madame. D'abord, vous avez oublié de préciser aussi que je suis coordonnateur du cadre national de concertation de la société civile. Pour ces mesures, je pense que les autorités ont été proactives pour prendre les mesures qu'il faut, encore comme cela a été fait en mars 2020. Donc vraiment, c'est une chose à saluer. C'est le couvre-feu, la limite du nombre de personnes tolérées par réunion, la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation au niveau provincial, ville, commune, territoire et des secteurs. Tout cela, vraiment, ce sont des choses que nous saluons et en tant qu'acteur de la société civile, c'est encouragé. Cependant, nous pensons qu'il y a eu quand même, il n'y a pas eu assez de sensibilisation de l'opinion et de la population en général pour qu'elle soit vraiment préparée à pouvoir accepter et se conformer à ces mesures. Les mesures sont bonnes, mais la préparation n'a pas été au rendez-vous. D'où nous sentons quand même que le scepticisme continue, les gens se posent la question, est-ce que ça valait vraiment la peine, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra encore revoir. Nous avons toujours parlé de la communication qui doit être renforcée au niveau local et aussi en intégrant la société civile fortement dans la stratégie de communication. Nous sentons qu'à ce niveau, c'est encore vraiment faible et encore qu'au niveau des comités de suivi, et il n'y a que les comités de sécurité locale qui est là-dedans et non pas les organisations de la société civile. Nous pensons qu'il faut une concertation permanente entre les organisations de la société civile et les autorités pour que ces mesures soient efficaces afin que nous puissions suivre d'une part, sensibiliser et vraiment lutter efficacement parce que tous les stéréotypes sont là, pas, on trompe les gens, alors qu'effectivement la maladie est là et il faut avoir une stratégie combinée, synchronisée pour pouvoir lutter contre cette maladie.
Par rapport au couvre-feu, Daniel Singoma, plusieurs personnes semblent ne pas être d'accord avec l'heure du couvre-feu. Elles demandent à ce qu'on repousse le couvre-feu à 23h au lieu de 21h. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, nous sommes très divisés sur cette question des couvre-feu, que ce soit au niveau de la société civile. Et nous, comme cas de concertation, je pense que nous allons encore nous concerter davantage. Et c'est la raison pour laquelle je demande qu'il y ait un comité permanent de concertation entre la société civile et les autorités du comité des riposte. Donc, pour l'heure des couvre-feu, parce qu'il y a de certains endroits dans les pays où ce n'est pas un problème. Déjà 18h, les gens rentrent d'eux-mêmes à la maison. Ils peuvent rentrer et il n'y a pas de problème. Dans plusieurs provinces, on a des problèmes d'électricité, il n'y a pas d'activité vraiment qui vont au-delà des 20h. Mais dans des grandes villes comme Kinshasa et les grandes agglomérations, Lubumbashi, partout ailleurs, où plusieurs personnes terminent de marcher vers 19h, il est vraiment difficile de pouvoir respecter, de rentrer à la maison avant 21h. Donc, à 21h, tu verras sûrement les gens en train de rentrer, les gens se précipitent, ça devient un peu plus chaotique, catastrophique, beaucoup de stress. Bon, ça contribue peut-être à véhiculer le message sur la pandémie, et c'est une psychose comme ça, mais je pense qu'il faut effectivement jouer sur cette heure, voir quelles sont les mesures. Si on doit maintenir l'heure à 21h, alors élargissons les moyens de transport, des moyens qui fassent que les gens puissent rentrer avant dans leur maison. Mais si on n'a pas ces moyens, il faudrait quand même voir qu'est-ce qui est plus convenable pour que la population puisse rentrer à la maison, savoir qu'il y a couvre-feu et avoir une heure vraiment où il y a des études qui sont déjà faites pour savoir à quel moment les gens rentrent à la maison dans des villes comme Kinshasa. Donc, je pense que 21h, c'est très tôt. Il faudrait peut-être au-delà, 23h, minuit. Bon, encore qu'à ce moment, tout le monde est à la maison et on ne sort plus. Ouais.
Dani Singoma, il y a aussi cette question des frontières. Plusieurs personnes pensent qu'il faudrait fermer les frontières parce que beaucoup des cas viennent de l'extérieur. Au lieu d'instaurer un couvre-feu et demander aux gens de rentrer à la maison au plus tard 21h.
Non, comme l'a dit mon prédécesseur, je pense que ce n'est pas nécessairement question de fermer les frontières, mais c'est question de sérieux. Déjà, je pense, si je ne me trompe pas, le docteur Mouyembe ou quelqu'un d'autre a dit que le personnel commis à la lutte contre la COVID a 5 mois d'arriéré de salaire. Il faut vous imaginer les gens qui travaillent aux frontières. Est-ce qu'ils sont payés régulièrement? Est-ce qu'ils sont bien motivés pour qu'ils fassent correctement leur travail? C'est là où se trouve le problème. Si ces gens sont bien motivés, ils sont bien encadrés, leur salaire est régulier, je pense qu'ils feront bien leur travail. Parce que c'est le relâchement au niveau des contrôles qui pose problème. Quand il y a relâchement, et des gens passent, et ils corrompent un peu, et tout, et ceux qui sont là ne savent pas qu'ils sont en train de porter un grand coup contre la lutte contre cette lutte contre la maladie, parce qu'ils laissent passer les gens contre des petits monnaies, des petits sous, et ça, ce n'est pas tolérable. Donc, ce n'est pas question de fermer les frontières, mais de mettre du sérieux, de bien soigner ceux qui y travaillent, et aussi de mettre toutes les précautions possibles. Il faut que les tests soient de rigueur, il faut que les mesures barrières soient respectées et tout autre. Donc ça va nous aider. Nous avons parlé de quarantaine. Maintenant, les gens reviennent. Et ils viennent, ils entrent dans les pays. Il n'y a pas de quarantaine. Alors que, lors de l'état d'urgence, il était prévu que tout voyageur qui vient de l'extérieur devra être en quarantaine pendant 15 jours ou je ne sais pas, 14 jours ou même 7 jours. Mais pourquoi on ne le fait pas? Bien sûr, c'est trop dur, mais il faudrait des mesures comme ça où quand les gens rentrent, on les met en lieu où on peut les surveiller. Ils font encore les tests. Et puis après, on regarde ce qu'ils sont. Mais si on laisse tout passer, je pense qu'il y aura des problèmes. Ce n'est pas seulement au niveau des frontières. Même ici, au niveau du fleuve, il faut voir les embarcations. Au niveau de la route, au niveau du transport en commun, il y a beaucoup de problèmes. La promiscuité est trop grande. La distanciation n'est pas respectée. Donc il faut des mesures incitatives pour les personnels qui a cette charge, mais aussi pour les commerçants, les propriétaires des véhicules, des bateaux, des taxis motos, enfin qui aient une mesure qui peuvent leur permettre de ne pas perdre et de mettre en application les gestes qui permettent de lutter contre la maladie.
La réalisation me signale qu'elle n'arrive pas à joindre le professeur Jean-Marie Kayembe, pneumologue, qui devait être avec nous dans cette émission. À la place, nous avons Dr Michel Mouboudi, qui est médecin expert en santé publique. Il est membre de la riposte contre le Covid-19. Dr Michel Mouboudi, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Que pensez-vous, Dr Mouboudi? Il y a un téléphone qui sonne à côté de ces mesures.
Merci beaucoup, Madame Kelly. Non, je pense que ces mesures tombent à point nommé lorsque vous voyez l'allure avec laquelle on était en train de partir en termes de nombre de cas en République démocratique du Congo. Et vous que depuis pratiquement la fin du mois d'octobre, on a constaté cette hausse et il était temps justement de mettre en place ce qu'on peut appeler des mesures de confinement partiel pour éviter cette propagation qui était assez inquiétante. Et pour nous, en tant que médecins de santé publique, en tant que membres de l'équipe de riposte, on ne peut que saluer ces mesures qui ont été édictées par les autorités du pays afin justement de préserver la vie des gens et faire en sorte que les secteurs, de manière globale, puissent être productifs. Mais maintenant, comme vous le savez, Madame Kelly, entre les mesures et leur application, parfois c'est le jour et la nuit dans ce pays. Et donc ce qui va être important, c'est pas qu'on ait mis des mesures en place, c'est qu'on les applique. Vous avez vu, par exemple, que même à l'époque, lorsqu'on avait procédé à une série de mesures de confinement, on déplorait toujours ce manque d'application des mesures alors qu'on les connaissait. Donc nous espérons que cette fois-ci, il y aura un peu plus de bonne gouvernance dans le respect de ces mesures. Et cette bonne gouvernance en termes de respect des mesures qui ont été dictées va être une responsabilité partagée. Je crois que les gouverneurs des provinces, les vice-gouverneurs, les ministres provinciaux de la santé, les maires de la ville, les bourgmestres, toutes les personnes ou toutes les autorités politico-administratives, quel que soit leur niveau de responsabilité, vont s'employer à ce que ces mesures soient de stricte application. Je suis convaincu que si nous y travaillons ainsi avec la pleine participation de la population, on va arriver justement à diminuer cette propagation et justement à rendre l'espace favorable au travail et à la production.
L'instauration du couvre-feu, c'est une nouvelle mesure qui vient renforcer celle qui existait déjà. Les gens se posent la question de savoir pourquoi de 21h à 5h du matin, est-ce que le virus se propage plus la nuit?
Alors, ce que vous pouvez savoir et regarder un peu à travers le monde, hein, on constate généralement que la plupart des activités qui condensent ou qui emmènent des concentrations des populations, si vous remarquez bien, Madame Kelly, ces activités se font généralement la nuit ici en RDC. Les boîtes de nuit, c'est vraiment la nuit, si vous permettez-moi la tautologie. Les bars commencent à fonctionner la nuit. Vous avez ainsi à Kinshasa une pratique où c'est à partir de 19h déjà que les gens commencent à se mettre en cluster et favoriser ainsi la propagation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, quand c'est la nuit, le contrôle devient difficile. Parce qu'on le savait bien avec aujourd'hui ce qu'est notre police, c'est pas évident de pouvoir exercer un contrôle sur certaines activités de masse qui se font la nuit. Et on a constaté, regardez même ce qui s'est passé en Corée, c'est principalement dans des bars, dans des boîtes de nuit que la transmission est très 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 filante. Et donc pour nous, nous pensons que le couvre-feu, c'est déjà une très bonne chose qu'il faut mettre en place pour éviter notamment toutes ces activités nocturnes qui sont très peu contrôlées. Mais comme vous avez vu, ces activités ne sont pas isolées. Donc c'est un ensemble d'activités, c'est un kit, si vous voulez bien, d'activités ou d'actions que nous mettons en place qui sont combinées pour pouvoir diminuer la transmission, que ce soit la nuit, mais aussi que ce soit la journée, parce que quand, par exemple, nous parlons du couvre-feu, nous ne disons pas qu'il faut mettre fin aux mesures barrières, dont notamment le port du masque, le lavage des mains, ainsi de suite. Donc, voyez ces mesures comme un ensemble de mesures, comme un cocktail de mesures pour permettre à ce que le virus ne puisse pas circuler.
Vous avez parlé des bars, boîtes de nuit. C'est pas un grand nombre de personnes qui fréquentent ces endroits, Dr Michel Mouboudi. Oui. Il y a aussi des boîtes qui fonctionnent la journée.
Le problème, d'accord, mais Madame Kelly, ce que vous oubliez, c'est que ces personnes qui fréquentent les bars, quand elles sont infectées, elles rentrent dans les ménages. Vous comprenez, c'est qu'en fait, moi je suis père de famille, je vis avec 10 personnes dans ma maison. Lorsque je suis infecté, je rentre, le potentiel d'infection augmente. Comprenez un peu ça. Donc ne voyez pas les personnes, mais voyez les conséquences que ces personnes peuvent engendrer si elles sont infectées. Donc c'est dans ce sens qu'il faut voir. Et quand vous regardez bien la population qui fréquente ces genres de milieux, c'est une population active. Et donc, en tant que telle, c'est une population, du coup, la journée qui est dans le marché, c'est cette population que vous retrouvez dans des magasins, cette population que vous retrouvez dans des foyers, dans des activités sportives, ainsi de suite. Donc, le facteur de multiplication, le facteur de propagation peut être très rapidement multiplié lorsque, justement, ces genres de gens ne sont pas contrôlés.
Docteur Michel, vous dites, qu'en est-il des marchés? C'est aussi des endroits où la propagation se fait très facilement.
Exactement. Donc, si vous parlez de la propagation en cluster, donc regardez tout ce qui est rassemblement. Ok, donc encore une fois de plus, le fait de cibler certains endroits à haut risque n'exclut pas des actions que nous avions déjà demandé qu'on applique dans certains autres endroits. Donc lorsqu'on parle des boîtes de nuit, lorsqu'on parle des enterrements, on ne dit pas, mais écoutez, les restes ça va. Non, je pense que le dénominateur commun de toutes les activités qui se mettent en place et qui regroupent des gens, c'est le respect des mesures barrières. Donc ça, c'est important, il faut que les gens le sachent. Mais maintenant, sur certains pôles qui ont des risques très élevés, nous essayons d'accentuer, parce qu'en fait, le risque zéro n'existe pas, que ce soit les églises, que ce soit les marchés, que ce soit même les petites rencontres où les gens peuvent se retrouver dans des petites fêtes, tous ces endroits-là sont à risque. C'est comme ça qu'il est important que les gens comprennent que lorsqu'on édicte des mesures de santé publique, on n'est pas là pour pouvoir mettre quelqu'un mal à l'aise. Et la réussite de ces mesures va dépendre justement de l'implication de chacun. Donc je suis X, comment moi, en tant que Michel Mouboudi, je suis en train de contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus. Je mets mon masque et je me lave les mains. Et si chacun de nous fait ça, qu'il soit au marché, qu'il soit à l'école, qu'il soit à l'église, nous diminuons le risque de propagation. C'est comme ça que beaucoup de pays sont arrivés à vaincre la propagation du coronavirus. Ce n'est pas vu comme le chef de l'État a dit, écoutez, nous allons continuer ce que nous voulons faire, attendons quand la police va nous arrêter pour qu'on puisse mettre le masque. On ne met pas le masque pour la police, on ne met pas le masque pour le bourgmestre ni pour le gouverneur, on met le masque pour sa santé. Parce qu'aujourd'hui, Madame Kelly, moi je suis en train de voir des gens en train de mourir. Et en tout cas, lorsque vous êtes frappé, vous êtes malade seul, et quand vous mourrez seul, malheureusement, vous pouvez aussi laisser des conséquences fâcheuses. Donc il faut vraiment que cette prise de conscience collective soit au point, et que les gens comprennent que nous sommes dans une situation très difficile, évidemment c'est la fin de l'année, mais les gens doivent comprendre qu'on doit s'engager avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de participation et beaucoup d'engagement pour arriver à mettre fin à ce fléau qui justement secoue le monde entier.
On vous garde encore dans cette émission, docteur Michel Mouboudi. On va prendre quelques réactions des auditeurs. Ils sont nombreux à appeler sous les standards. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani, Rémi Biogi, qui nous appelle depuis Kisangani. Pour vous, Nestor Mandjangou.
Rémi Biogi, depuis Kisangani. Les mesures prises par le chef de l'État sont sanitaires, dans la mesure où elles luttent contre cette pandémie comme bien pernicieuse. Mais là où il y a un peu d'inquiétude, ne pouvait pas laisser les débits de boissons impurs fonctionner et fermer les écoles, car je ne vois aucune différence entre les églises et les écoles du point de vue population. Les écoles, comme les églises, devraient aussi fonctionner sous le respect des mesures barrières. Enfin, après les vacances de Noël, je propose au chef de l'État de maintenir le couvre-feu de 21h à 5h et laisser toutes les institutions fonctionner sous le respect des mesures barrières, en vue de ne plus entraver le calendrier scolaire qui connaît déjà des problèmes de grève pour certaines écoles.
Monsieur le ministre.
Oui, il réfléchit, mais le problème est en nous-mêmes. C'est lequel? C'est le manque de respect des mesures qu'on nous demande d'appliquer. Tous les problèmes, c'est à ce niveau-là. Quel est notre niveau d'adhésion à cela? Quand on vous dit porter les masques, est-ce que nous tous, nous adhérons à cela? Non. C'est nous-mêmes qui facilitons certaines choses à ne pas trouver des solutions rapidement. Nous avons commencé avec cette lutte depuis le mois de mars dans le pays. On nous a demandé de faire beaucoup de choses, mais nous n'arrivons pas à les appliquer comme il faut. On ne peut pas, quand on dit il faut fermer les écoles, ils demandent à ce qu'on les ferme pas. Je suis d'accord, mais je dis quel est le niveau de discipline de nos enfants. Voyez, les enfants sont déjà dans des salles de classe. peut-être il y a des salles où vous avez un peu d'aération, où vous avez des bancs, mais dans certains milieux, les enfants sont confinés d'office. Vous comprenez? Les laisser exposer sous cette forme, ce n'est pas bon. Est-ce que tous les enfants qui vont à l'école portent-ils des masques? Ça, c'est une question aussi que nous devrons nous poser. Même chose pour les églises, puisqu'il est en train de plaider pour que les églises ne soient pas soient libres. Oui. Mais est-ce qu'on respecte la discipline? On a d'ailleurs, on a été large, les chefs de l'État ou les mesures sont larges par rapport aux églises. Parce qu'on dit que les églises fonctionnent jusqu'à avant le début du couvre-feu. Mais il faut qu'on respecte les mesures, les gestes barrières. Mais c'est ça qu'on demande. Si nous appliquons tout cela, ça ne fera pas longtemps. Ça peut prendre fin au moment voulu. Mais si nous-mêmes, à qui on demande de poser tel ou tel geste salutaire, nous ne voulons pas faire, mais il faut passer par des mesures fortes. Les mesures qu'on prenne sont fortes pour que nous puissions prendre conscience. Mais il est difficile pour nous. Je ne dis pas que c'est un mal congolais, mais j'aimerais qu'on arrive à adhérer à certaines choses que le pouvoir public nous demande de faire. Si on ne respecte pas, mais ça sera difficile. Je suis d'accord avec lui, il dit qu'il faut qu'on continue avec. Mais les mesures barrières, nous devrons continuer avec jusqu'au moment où nous allons trouver le salut par rapport à la maladie. Tant qu'on n'arrivera pas à faire chasser la COVID-19, les mesures doivent continuer à être appliquées.
Dadi Singoma, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kolwezi.
Chouk Mouigiroa à partir de Kolwezi. On comprend bien les soucis du gouvernement, mais je trouve vraiment inutile l'instauration d'un couvre-feu si cette mesure nocturne n'est pas accompagnée par une désintoxication des endroits publics. En Afrique du Sud, par exemple, le gouvernement avait instauré ce même couvre-feu pour pulvériser et désinfecter les endroits publics les plus fréquentés. Alors chez nous, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il s'agit d'un couvre-feu pour traquer les bandits et contrôler la circulation d'armes ou il y a un problème de concept qu'il faut changer? Je me demande si on n'est pas en mesure de contrôler et contenir la circulation de ces virus pendant la journée. Est-ce que c'est la nuit qu'on saura tenir le coude au moment où c'est pendant la journée qu'on doit renforcer les mesures barrières parce que c'est à ce moment-là que le risque de propagation est beaucoup trop élevé qu'à 21h. Et au lieu de priver intentionnellement aux gens de circuler librement, pour des raisons peu convaincantes, le gouvernement devrait par contre intensifier les contrôles des mesures barrières, que ce soit la journée ou la nuit, et laisser les gens rentrer à leur domicile en toute quiétude, sans précipitation. Car cette situation risque d'être à la base non seulement des embouteillages, mais des abus aussi des forces armées, surtout que nous sommes dans un mois festif.
Réaction, Dani Singoma.
Notre ami de Kolwezi, bon, je ne ferai pas faire le procès de tension, de mesures du gouvernement. Donc, pour nous, nous restons dans la compréhension que le couvre-feu a été décrété uniquement pour lutter contre la résurgence de cette pandémie de COVID-19. Et toutes les autres considérations sécuritaires et autres choses politiques, nous nous réservons vraiment de donner un point de vue sur cette question ici.
Alors il a donné un exemple, il a pris le cas de l'Afrique du Sud où le gouvernement avait instauré ce couvre-feu.
Par rapport à ça, je pense qu'il a totalement raison. Donc pour, disons, convaincre encore les gens que ce couvre-feu est utile, il faudrait qu'on voit effectivement des mesures et des gestes qui permettent de faire comprendre qu'on a instauré un couvre-feu parce qu'il faut lutter contre la pandémie de plusieurs façons, notamment cette désinfection des marchés, des lieux publics, comme ça le lendemain les gens les retrouvent plus propres. Donc pour moi c'est cela. Mais quand nous insistons, nous, en tant que société civile, sur des aspects, certains aspects de ce couvre-feu, c'est parce que nous tenons compte des plaintes de la population. Bien sûr, il faut des mesures parfois impopulaires par rapport à certaines gravités, mais il faut aussi tenir compte de cette population qui doit être engagée, mobilisée dans cette lutte. Parce que la population, quand même, elle est là. Ce sont des personnes qui vivent, qui réfléchissent, qui ont aussi un cœur. Il faut les amener à pouvoir adhérer à une initiative. C'est pour cela que nous avons parlé des préalables et de la communication. si la communication avait été bonne. Bien sûr, il y a depuis octobre, on parle de la deuxième vague qui arrive, mais encore que cette communication a été faite entre experts, entre scientifiques, à la télévision, en français, et que beaucoup de gens n'ont pas compris dans leur langage propre que cette maladie revenait. Mais d'un seul coup, la population est surprise de voir qu'on lui interdit de sortir de tout ça. C'est salutaire, ces mesures, mais la communication n'a pas été très bonne. Et nous disons encore, il ne faut pas chasser la maladie d'un côté pour la voir de l'autre. On peut bien fermer les bars, on peut bien fermer les boîtes de nuit à 21h, mais regardez toute cette masse de personnes. Moi, je me situe par exemple à Kinshasa pour le moment. Cette masse de personnes qui commence à fuir à 19h pour rentrer à la maison. C'est la précipitation dans les transports en commun. Les gens sont entassés. Ça veut dire que si quelqu'un a la maladie, il les transmet plus facilement aux autres en rentrant à la maison. C'est ça que nous voulons éviter. Nous disons qu'il faut qu'il y ait des mesures quand même qui permettent pendant qu'il y a les couvre-feu, qu'on mette en place, qu'on intensifie les transports en commun pour permettre aux gens de rentrer. Mais si ce n'est pas possible, donner un petit temps aux gens en fait de s'organiser, dans leur tête ils savent qu'ils doivent rentrer parce qu'il y a un couvre-feu et qu'ils rentrent quand même dans de bonnes conditions. C'est ça qui est notre souci jusqu'à présent en tant que société civile.
Docteur Michel Mouvoudi, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kisangani.
Jean-Baptiste Léni, moi depuis la ville de Kisangani. La décision du chef de l'État de maintenir le couvre-feu est salutaire pour faire face à la deuxième vague de la pandémie en coronavirus. En revanche, cette mesure est mal calculée dans son champ d'application. Cette décision est applicable sur toute étendue du territoire national, alors que d'autres parties du pays ne sont pas sujettes à cette pandémie. C'est-à-dire que cette dernière devrait être adoptée dans des provinces ou régions épicentres de la maladie. À mon humble avis, généraliser son application, c'est à d'autres termes, mettre aussi à péril la vie de la population qui n'aide pas rien d'autre que des activités quotidiennes pour son survie familiale. Pour clore mon intervention, il n'y a pas que la pandémie qu'il faut privilégier, mais il faut aussi privilégier certains d'autres secteurs plus importants de la vie, tels que l'économie et les sociales de la population.
Docteur Mouvoudi.
Alors, merci Madame Kelly. Non, je pense que notre auditeur de Kisangani, je pense, a raison. Et je vais aborder ce qu'il a dit en trois petits points. Donc, le premier point, qu'il comprenne que le couvre-feu est une mesure préventive. En fait, c'est une mesure pour éviter la contamination. En d'autres termes, on met cette mesure, pas parce qu'il y a des cas, mais pour éviter justement que s'il y a un cas, que ce cas ne puisse contaminer les autres. Donc, c'est ce qui explique justement que même dans des endroits là où on n'a pas beaucoup de cas, le couvre-feu peut s'appliquer justement dans le souci de prévenir. Donc ça, c'est un premier élément, il doit comprendre ça en ce sens-là. Évidemment, on a des disparités en termes de niveau de propagation à travers le pays, mais je pense qu'en tant que mesure préventive, dans un premier temps, c'est pas mauvais de pouvoir l'étendre à ce titre-là. Deuxièmement, ce qu'il doit comprendre aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas de production avec une population malade. Aujourd'hui, justement, le choc sanitaire que nous avons entraîne des morts, entraîne des personnes qui ne peuvent plus produire. Donc, il est très important que les gens comprennent que nous devons beaucoup nous investir pour une meilleure santé de la population afin que cette population soit productive. Les gens qui vont enseigner, les gens qui vont aller travailler dans les usines, les gens qui vont aller travailler dans les marchés, les gens qui vont aller travailler, je ne sais pas, dans les entreprises publiques privées, dans les ONG, ces gens doivent être en bonne santé pour être productifs. Donc, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'autres secteurs qui utilisent des humains et des humains malades. Donc il faut que vous soyez en bonne santé pour être contributif au développement, y compris dans les autres secteurs en dehors du secteur de la santé. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que nous sommes en train d'évaluer toutes ces mesures. Rappelez-vous qu'on a fait des succès vers le mois de juillet, août, quand on a commencé à voir justement que la pandémie était en train d'aller en dépression, parce qu'on avait mis en place des mesures. Et je crois justement que le travail que nous faisons au quotidien, c'est d'évaluer toutes ces mesures qui viennent d'être énoncées, qui sont en train d'être mises en place. Et ces mesures, encore une fois de plus, Madame Kelly, sont combinées. Il n'y a pas une mesure qui exclut l'autre. En fait, c'est une association des mesures, et ces mesures doivent être conjuguées de manière à ce que nous arrivions à diminuer le risque. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais le souci ici est de diminuer le risque de propagation. Donc, à ce titre-là, je reviens encore une fois de plus sur la prise de conscience collective, sur l'engagement de la communauté. Tout ce que nous avons fait réussie dans ce pays dans le cadre des luttes contre les épidémies, ça a été vraiment avec l'engagement de la population. Et à ce titre-là, je crois que nous pouvons l'obtenir comme nous l'avons obtenu le fois passé et arriver justement à faire en sorte que cette population commence à travailler et à produire pour soutenir l'économie qui est en train de s'essouffler.
Merci Dr. Michel Mouboudi, Nestor Manziangou, ministre en charge de la santé du gouvernement provincial du Congo central. Nous sommes à la fin de notre émission. Cette émission permet aussi de sensibiliser la population. Quel message vous lancez à la population du Congo central ce soir?
Merci madame. Je demande à toute la population du Congo central d'adhérer à toutes ces mesures. Elles sont salutaires pour nous. Imaginez la première vague. À la première vague, nous avons enregistré plus de 500. Et donc on est arrivé jusqu'à 549 cas et 51 décès. Maintenant, cette deuxième vague, en deux mois, nous sommes à 355 cas et 10 décès. Donc, pour nous, ça nous choque. Ça nous choque et nous ne pouvons pas chercher à ce que ça puisse évoluer. C'est pour ça que nous lançons cet appel à toute la population du Congo central pour qu'elle adhère. Le couvre-feu, ce n'est pas la fin du monde. Ça va passer. Le port de masque, ce n'est pas aussi la fin du monde. Ça va passer. Et on ne vous demande pas de porter le masque, même si vous êtes seul la nuit. Non. Mettez votre masque au moment voulu pour qu'il n'y ait pas contamination, pour qu'il n'y ait pas échange de rejets salivaires. Ça, nous demandons à tout le monde pour que cela soit respecté. Le lavage des mains, ce n'est pas si difficile. Ce sont des mesures que nous pouvons bien maîtriser pendant un temps et pour maîtriser la pandémie.
Merci.
Demain ou après-demain, les responsables du pays vont prendre des mesures qui vont soulager tout le monde. Mais pour le moment, nous sommes là qu'à appliquer. Voilà ce que je demande à la population du Congo central qui est en train de me suivre pour le moment.
Merci madame. Ernesto Mandiangou, Dani Singoma, votre mot de la fin.
Ok, merci madame. Bon, mon mot de la fin, c'est d'encourager la population à respecter les gestes barrières, d'encourager le gouvernement à impliquer la société civile dans les mesures de suivi et d'évaluation, et à créer cet espace permanent. Mais surtout, j'allais insister, la fois passée, nous avions parlé de la session des Nations Unies, au cours de laquelle nous avions demandé de convoquer, qui avait été convoqué, et notre message avait été relayé, notamment sur la question des vaccins. Ce n'est pas aujourd'hui la question des vaccins dont on fait dans cette émission, mais quand même, c'était pour saluer tout le monde qui a contribué avec nous à cet élan. Et c'est pour montrer que quand la société civile est décidée et soudée, elle peut obtenir de grandes choses, et quand le gouvernement associe la société civile dans les stratégies de communication et d'évaluation et de suivi, je pense que la lutte contre la pandémie sera encore plus bonne. Merci.
Merci Dani Singoma, Dr. Michel Mouboudi, médecin, expert en santé publique et membre de la Riposte encore contre la COVID-19. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toute cette population qui nous suit de partout en RDC ce soir?
Alors, ce que je peux dire, Madame Kelly, c'est qu'en fait, annoncer les mesures, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas du tout. Il faut les mettre en action, il faut les appliquer. Et l'application des mesures, c'est une question de responsabilité partagée. Et cette responsabilité partagée doit avoir comme socle la participation de la population principalement. Voilà ce que je peux dire à la population en comptant sur elle. Et j'insiste encore une fois de plus, il n'y a pas celui qui dit ce qu'il faut faire et les autres regardent. Il y a tout le monde qui doit prendre conscience de la situation catastrophique et difficile dans laquelle nous sommes. Et chacun de nous, là où il est, il doit définir sa part de contribution dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Nous devons tous travailler main dans la main, comme l'ont dit mes prédécesseurs, pour arriver justement à mettre en place un système qui soit productif pour l'ensemble du pays.
Merci docteur Michel Mouboudi. Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans sa production, Guy Mathieu, Dona Madimba, Axel Goncho, Willem Lungamba qui était à la mise en onde, présentation et coordination Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.